on se retrouve avec L'Orient le jour, daté du jeudi 6 avril, quotidien libanais. L'armée israélienne annonce avoir intercepté une roquette tirée du Liban. L'armée israélienne a répliqué à la frontière libano-israélienne. Et puis vendredi 7 avril, le Hezbollah consacre l'unité des fronts. Article de Salah Hijazi. L'Iran et le Hezbollah veulent changer la règle du jeu. Autre article, l'axe de la résistance peut être ainsi considéré et peut être amené à marquer des points. On revient sur un premier jalon d'un accord qui aurait pu être un accord de paix. Possible interprétation sur l'accord signé en octobre sur la délimitation des frontières maritimes entre Israël et Liban. Analyse qui aujourd'hui doit être révisée en partie. 6 mois après, 30 roquettes tirées jeudi à partir du Liban Sud. Israël a répondu en ciblant le Hamas au Liban et à Gaza. On a atteint le pic le plus important de conflit depuis 2006, écrit le journaliste. Cette zone peut encore être utilisée comme une carte dans le cadre de la confrontation. Les enjeux n'ont rien à voir avec le Liban, est-il bien précisé. Le Hezbollah est probablement impliqué, mais complètement en retrait. Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, ne veut pas d'une nouvelle guerre. Catastrophique pour lui, catastrophique pour la communauté chiite, catastrophique pour le Liban. Mais il ne veut pas perdre la carte palestinienne. Et Israël, de son côté, ne veut pas d'une nouvelle guerre. Sa réponse a été mesurée. On pourrait donc en rester là. Tout dépend de la réponse du Hezbollah et du Hamas, tenter de tester la dissuasion israélienne. L'État hébreu est considéré comme étant plus fragile qu'à l'accoutumée, confronté à une crise interne. Netanyahou est sur la corde raide, écrit le journal. Sa relation avec l'allié américain est au plus bas. Il doit donner des gages également aux plus extrémistes de son gouvernement. La situation peut devenir incontrôlable pour lui si Gaza, Jérusalem et la frontière du Liban s'embrasent en même temps. Le Hezbollah et le Hamas semblent avoir réussi leur coup. Autre article, autre jour. Les tirs sont d'origine palestinienne, mais le Hezbollah ne serait pas impliqué. Simultanément, visite du chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Beyrouth. Et ce n'est pas une coïncidence. Le Hezbollah et le Hamas veulent montrer la possibilité de coordonner leurs efforts. C'est la stratégie de l'unité des fronts. Le Hamas répond à l'éruption violente des policiers israéliens dans la mosquée El-Aqsa. Il y répond depuis le Liban. Mais les maîtres du jeu, le Hezbollah et son parrain iranien, ont pour objectif changer les règles du jeu, écrit L'Orient le jour, sans risquer la confrontation directe. Syrie, Hezbollah, Iran n'ont pas les moyens de répondre à Israël. Impossible à faire depuis le Liban sans risque de guerre. Donc, utilisation de la carte palestinienne. Sans être en première ligne, mais symboliquement, ils ont constitué l'axe de ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Téhéran cherche à unifier tous les fronts et à frapper sur tous les fronts. Mais attention, le Hezbollah joue avec le feu et risque de renforcer l'animosité contre lui à l'intérieur du Liban. Le Hezbollah consacre l'unité des fronts, titre du 9 avril de L'Orient le jour. Les chefs du Hezbollah et du Hamas se tiennent prêts face à Israël. Hezbollah publie un communiqué suite à la rencontre avec Nasrallah et Ismaël Haniyeh, intensification de la résistance en Cisjordanie et à Gaza. Et le premier ministre libanais sortant, Naguib Mikati, affirme « Des éléments incontrôlés sont derrière les tirs de roquettes qui ont visé Israël à partir du Liban Sud. » Le Hezbollah et le Hamas, eux, exécutent un même agenda. Dans un communiqué commun, ils précisent « L'axe de la résistance, c'est le terme pour évoquer Palestiniens, Libanais, Syriens et autres factions proches de l'Iran. » On poursuit avec le Jordan Times, quotidien jordanien. La Jordanie contre la campagne diplomatique israélienne à la une. Le ministre des Affaires étrangères jordanien a refusé de recevoir les messages d'Israël qui tentait de communiquer par des intermédiaires sur les événements à Al-Aqsa. Mais le ministre des Affaires étrangères jordanien a informé les tierces parties que la Jordanie était prête à recevoir un message direct d'Israël. Si Israël déclare les points suivants, cesser la violation à Al-Aqsa, pas de modification du statu quo historique et juridique d'Al-Aqsa et lever les restrictions d'accès aux lieux des cultes. Le ministre des Affaires étrangères a informé les tiers, seul le départ des Awaf, c'est-à-dire des lieux de culte, qui sont gérés par Al-Aqsa, peuvent permettre la reprise d'une négociation et d'un dialogue direct. Seule la Jordanie a autorité pour gérer les lieux. Israël porte l'entière responsabilité de l'escalade, déclare-t-il, risque de situation explosive. Et puis, autre titre dans le Jordan Times, risque de guerre des religions, signé par Amer el-Sabaleh. Les pays arabes, signataires des accords d'Abraham, envisagent des pressions diplomatiques sur le gouvernement israélien. Les Émirats arabes unis sont à la tête de ces efforts, mais ces mêmes États, Maroc compris, ont condamné Israël. Risque de rupture des relations ou tout du moins fin de la coopération. Et Israël le sait. Seules les initiatives des parties, continue le Jordan Times, des parties prenantes au conflit, peuvent ouvrir la voie à de véritables résultats. Aujourd'hui, le conflit est une guerre de religion, autre titre du Jordan Times. Il faut un processus parallèle, la diplomatie religieuse est la seule voie qui pourrait être un moteur de paix. Et puis on poursuit avec le quotidien saoudien basé à Londres, Ashark El-Wazat. Où est El-Aqsa et pourquoi une telle importance pour l'islam ? Dans le texte, il y a tout un rappel historique du rôle effectivement soit du mont du temple, soit de l'esplanade des mosquées. Et le journal parle de Haram el-Sharif, le noble sanctuaire pour l'esplanade des mosquées. Mais il parle également de Harabayit ou du mont du temple pour les juifs. Et le rappel historique est à peu près fidèle. Le Hamas met en garde Israël contre les violations pendant Ramadan. L'Arabie saoudite condamne Israël. Tout ceci sont des titres d'El-Aqsa. Et puis, d'Ashark El-Wazat, qui reprend l'agence de presse saoudienne, qui a publié le communiqué suivant. Le Royaume d'Arabie saoudite exprime sa condamnation et le rejet de la prise d'assaut de la mosquée El-Aqsa, perpétrée par des colons israéliens sous la protection des forces de sécurité israéliennes. Ces actions minent les efforts de paix, violent le droit international, les principes et normes de respect des lieux religieux. L'Arabie saoudite soutient tous les efforts pour mettre fin à l'occupation, trouver une solution juste et compréhensive pour les Palestiniens afin de créer un État palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, précise le ministre des Affaires étrangères saoudien. Nous continuons avec Al Jazeera qui titre « La violence d'Israël est un problème ». Et autre titre toujours d'Al Jazeera, Israël vend des missiles de défense à la Grèce. Et puis un article extrêmement violent à l'encontre d'Israël d'un intellectuel canadien. Israël occupe brutalement les lieux saints, mais la machine de propagande israélienne tente de mobiliser l'attention du monde sur les roquettes lancées de Gaza et du sud-Liban. Journalistes, universitaires, commentateurs sont embarqués dans ce discours de propagande alors qu'il y a une autre façon de couvrir la violence israélienne qui est avant toute autre chose structurelle. Elle déshumanise le peuple palestinien par la culture, l'éducation, la politique israélienne, les checkpoints, le mur de l'apartheid, les démolitions de maisons, les emprisonnements, l'absence de liberté de circulation. La violence israélienne s'importe dans les villes palestiniennes, barbares, cruelles, destructives. Ignorants ou stupides, mais plutôt colonialistes, violents et racistes, dont la propagande israélienne se fait l'apologie. Toujours dans cet article, on cite Mohamed El-Kush, un Palestinien de Jérusalem qui a récemment répondu sur les questions des roquettes. Ce n'est pas la réalité de la situation. Quand on parle de Palestine, il faut parler du raciste Arthur Balfour qui a pavé le chemin de cette colonisation. Et puis suite, toujours après cette déclaration, un texte d'une violence absolument peu commune qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps dans la presse arabe, encore plus violent de tout ce que je viens de vous énumérer. Et ce texte est signé donc par Mouhannad Ayash, prof de sociologie dans une université canadienne. Toujours avec Al Jazeera, un article « Mort aux chrétiens, la violence gravit une marge de plus depuis le nouveau gouvernement israélien ». Attaque à la moto par 3 Israéliens dans un bar arménien. Des personnes attaquées à la sortie d'offices religieux, de plus en plus violents, de plus en plus faits de façon régulière contre tous les chrétiens de Jérusalem. Mort aux Arabes, aux chrétiens et aux Arméniens aurait été écrit sur un des murs du quartier arménien. On va terminer avec Maroc Hebdo qui nous fait un article sur les inégalités au Maroc et sur le statut des femmes juives. La communauté juive marocaine a un cadre juridique distinct, mais il n'y a pas d'égalité des sexes, écrit Maroc Hebdo. Les femmes ont un statut de subordination. La soumission de la femme est évidente dès la signature de la Ketouba. La femme doit obéir à son mari et au divorce. Et en cas de divorce juif au Maroc, les garçons de plus de 6 ans sont confiés au père. Les filles sont confiées à la mère tant que le père ne les réclame pas. Et dans les cadres d'héritage, ce sont les garçons qui sont prioritaires. Il y a une urgence, écrit le journal, pour les femmes juives et pour les femmes musulmanes, que l'autorité civile prenne les choses en main. Notre revue de presse est maintenant terminée. Je vous dis shalom, salam et à très bientôt.